Vous écoutez
RMC.
7h30 sur RMC, l'heure de l'info. Bonjour Stéphane Jeunesse.
Bonjour Mathieu Rouault, bonjour à tous.
À la une, la fin du procès en appel du féminicide de Julie Douy. Bruno Garcia, lourdement condamné.
L'ex-compagnon de Julie Douy, reconnu coupable de l'assassinat de son ex-compagne, il écope de la réclusion criminelle à perpétuité, comme en première instance d'ailleurs. Également déchu de son autorité parentale sur ses deux enfants. Marion Dubreuil, vous avez suivi ce procès au tribunal d'Ajaccio jusqu'au verdict tard hier soir.
Bruno Garcia a tremblé dans son box, mais il n'a pas dit un mot. De l'autre côté de la salle, les parents et le frère de Julie Douib se sont enlacés, soulagés par ce verdict qui reconnaît le calvaire de la jeune femme de 34 ans. Son père, Lucien Douib, peut enfin souffler.
Il a été reconnu qu'il était dangereux. Voilà, je remercie la justice d'avoir pris conscience qu'il fallait en arriver là. Et puis on va reprendre notre vie en main, essayer de se reconstruire avec Jordan, mon fils, Violette et surtout les enfants.
Bruno Garcia a été déchu de son autorité parentale. La cour a estimé qu'il privilégiait son intérêt à celui de ses fils de 12 et 14 ans et qu'il n'était pas en état de leur apporter sécurité et protection. C'est une bouffée d'oxygène pour Jordan Douib.
Ça redonne aux enfants leur droit de choisir, tout simplement. Ils n'auront plus rien à subir. En fait, ils choisiront seulement ce qu'ils voudront faire quand ils voudront le faire.
Lucien et Violette Douib vont retrouver dès aujourd'hui leurs deux petits-fils. Bruno Garcia, quant à lui, a 5 jours pour se pourvoir en cassation.
On est toujours dans l'actualité judiciaire. 4 adolescents de 13 ans vont se retrouver devant un tribunal après la mort du jeune Lucas début janvier dans les Vosges. Le collégien qui avait mis fin à ses jours car victime de harcèlement scolaire. Les 4 mineurs seront jugés pour ce motif précis ayant entraîné le suicide de l'adolescent.
Direction les États-Unis avec l'image de la nuit. L'émotion de Joe Biden après la diffusion de la vidéo de l'arrestation mortelle d'un Afro-Américain.
Des images choquantes qui ont poussé le président américain à réagir. Il se dit donc choqué, meurtri par la scène d'une rare violence. C'était au début du mois de janvier à Memphis quand Tyreen Nichols a subi un contrôle routier. Les policiers essaient de le faire sortir de sa voiture. Ils utilisent des gaz lacrymogènes. Le conducteur tente de s'enfuir et c'est là que la scène dégénère en tonnelard.
Tyreen Nichols est violemment tabassé, frappé à de très nombreuses reprises par 5 policiers qui s'acharnent sur lui. Il reçoit des coups de pied, des coups de matraque, des coups de poing. L'un des policiers, à 2 reprises par exemple, lui donne des coups de pied dans la tête alors qu'il est à terre et menotté. Sur la vidéo, on entend aussi l'agonie et les supplications du jeune homme qui appelle sa mère à l'aide. Il finit par tomber inconscient et pendant plus de 10 minutes, il va rester allongé sur le sol, menotté au poignet. Personne ne s'occupe de lui, personne n'appelle une ambulance. Tyreen Nichols meurt finalement 3 jours plus tard à l'hôpital. Sa mère dit que les policiers, je cite, l'ont réduit en bouillie.
Le récit d'Antoine Eulard, correspondant RMC BFM TV à Washington. Par ailleurs, les 5 policiers dont il est question, tous afro-américains, ont été inculpés pour meurtre après cette arrestation. Et puis en bref, en Israël, 7 morts dans une attaque contre une synagogue à Jérusalem-Est par un Palestinien hier soir. Plus tôt dans la journée, l'État hébreu avait mené des raids sur la bande de Gaza.
RMC 7h33, Noël Le Graët, encore une fois accusé de comportement déplacé.
La parole se libère au sein de la Fédération Française de Football. Dans le journal L'Équipe ce matin, on apprend que Florence Ardouin, la directrice générale de la 3F, évoque des faits de harcèlement sexuel et moral, tout comme Aline Riera, la trésorière de la Fédé, qui s'est confiée durant le dernier comité exécutif et qui accuse Noël Le Graët de gestes déplacés envers Corinne Diacre, Valentin Jamin.
Oui, devant les membres du COMEX, Aline Riera évoque des propos tenus le 7 janvier dernier. Je préférerais que vous me tendiez vos lèvres, dit Noël Le Graët à la sélectionneur Corinne Diacre, alors que cette dernière veut juste lui faire la bise. Le président en retrait aurait plusieurs fois, lors de réunions, utilisé des paroles lourdes, des mots déplacés, comme mon amour, pour s'adresser à la coach des Bleus. Noël Le Graët, absent lors de la réunion, a été informé de ces révélations, selon L'Équipe, et il aurait appelé Aline Riera pour lui reprocher cette sortie. Ces accusations s'ajoutent à celles de l'ex-directrice générale Florence Ardouin ces dernières heures et à celle de Sonia Swede, agent de joueuse. Le Graët toujours plus fragilisé, en attendant le rapport d'audit commandé par le ministère des Sports dévoilé ce lundi.
Allez les sports, côté terrain, bonjour Stéphanie Roch.
Bonjour Mathieu.
RMC, le journal des sports.
Et du football au programme ce soir avec un choc, Marseille-Monaco.
Une affiche entre 2 équipes en forme, mais Marseille qui reste sur une incroyable série de 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, pourra une nouvelle fois compter sur le coaching d'Igor Tudor, un entraîneur aux méthodes parfois déroutantes, Florent Germain.
Oui, Marseille aime d'abord le caractère d'Igor Tudor, qui n'hésite pas à s'en prendre aux journalistes s'il faut, quand les questions ne lui conviennent pas.
Vous ne respectez pas le match contre Monaco. Toi, tu me parles de Mercato et toi du match de coupe contre le PSG. Ce n'est pas sérieux.
Igor Tudor, pas toujours tendre avec ses joueurs, a su imposer son style et un jeu offensif qui séduit les Olympiens, et notamment Samuel Gigot, le défenseur.
C'est un coach qui prend un jeu assez direct. On prend énormément de risques. Je pense que ça se met en place. Et je pense qu'aussi avec les résultats, ça nous donne une confiance.
Sifflé avant son premier match, l'entraîneur de l'OM a conquis les supporters marseillais. Igor Tudor apprécie, mais garde ses distances.
Je sors rarement dans Marseille. Je ne vais pas au restaurant ou en balade. Je suis là pour travailler. Mais c'est une ville de foot avec des supporters exigeants qui vous donnent beaucoup d'amour tant que les résultats sont au rendez-vous.
Meilleur signe d'affection pour cet OM d'Igor Tudor. Le Vélodrome sera encore à guichet fermé ce soir pour Marseille-Monaco.
Et un petit mot, Orient transfert. Marseille devrait, dans les toutes prochaines heures, officialiser l'arrivée de l'international marocain Azzedine Ounahi en provenance d'Angers. Information RMC Sport. Montant estimé du transfert, environ 10 millions d'euros. Et puis à noter, en ouverture de cette 20e journée, la victoire de Lorient. C'était hier soir. Victoire de Lorient 2-1 face à Rennes.
Des Bleus encore en finale. C'est au Mondial de handball.
Ils ont fait plier la Suède 31-26. Un succès maîtrisé de bout en bout. Immense satisfaction du sélectionneur Guillaume Gilles après le match.
C'est pas du soulagement, l'émotion là, c'est une émotion réelle, c'est de la joie d'avoir été au rendez-vous de ce match qui était tout sauf évident. C'est ouais, plein de satisfaction de se retrouver à avoir dominé cette équipe de Suède et de pouvoir prétendre à une nouvelle étoile dimanche contre le Danemark.
Une nouvelle étoile, ce serait la 7e si jamais il l'emportait face au Danemark. Les Bleus vont retrouver les doubles tenants du titre, les Danois donc, dans un remake de la dernière finale olympique. La France s'était imposée, peut-être en signe.
Et puis des finales, il y en aura aussi sur les cours de tennis australiens ce week-end. Les femmes d'ailleurs, dès ce matin, et les hommes demain.
Et ce n'est pas une surprise, Novak Djokovic sera une nouvelle fois au rendez-vous. Il sera opposé au grec Tsitsipas, un match qui a déjà commencé côté coulisses. Eric Salio.
Oui, Novak Djokovic a ciblé très vite son plus dangereux rival dès mercredi soir après son quart de finale. Il avait oublié que Tsitsipas avait disputé une finale de Chelem, ce qui avait donné lieu à une scène cocasse en conférence de presse.
Je crois qu'il n'a jamais joué de finale, je me trompe.
Vous l'avez battu à Roland-Garros à Paris. C'était un match où vous êtes revenu qui était extraordinaire.
Ah, c'est vrai. Désolé, c'est ma faute.
Réel trou de mémoire, petit rabaissement gratuit en tout cas. Vendredi soir, le grec n'a pas voulu s'étendre sur le sujet. Lui aussi a eu sa crise d'amnésie.
I don't remember either.
Je ne m'en rappelle pas non plus. Non, pas du tout.
En balbutiant ces mots, Tsitsipas avait le masque. Ce 13e affrontement, le premier à Melbourne, s'annonce explosif.
Bon, ils s'en rappelleront peut-être un peu plus demain de se croiser sur cette finale du tournoi de l'Open d'Australie. Un petit chiffre pour vous donner une idée de ce qu'est en train quand même de réaliser Djokovic. En cas de victoire, il signerait son 22e succès uniquement en Grand Chelem. Il rejoindrait ainsi Rafael Nadal tout en haut du classement. Et puis on parlait de finale. Finale dame, elle débute dès 9h30. Elle mettra aux prises la kazakhstanaise Elena Rybakina à la biélorusse Arina Sabalenka. D'ailleurs, on retrouvera notre envoyé spécial à Melbourne, Eric Salio, dans le journal de 8h30.
Et à 8h40, juste après, Caroline Garcia, la numéro 1 française, numéro 4 mondiale, sera notre invitée sur RMC.